Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertille Bourdon, Luc Alazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Ludovic Auger. Deuxième volet de notre série de clôture consacrée aux besoins d'évasion. Après avoir étudié hier les mutations du tourisme et avant d'aborder demain le monde des séries, et puis jeudi de parler avec des écrivains voyageurs, tournons-nous aujourd'hui vers une pratique constamment critiquée, mais jamais délaissée, la consommation. Consommer l'ultime réconfort, point d'interrogation, c'est notre question ce matin dans Culture Monde.
Ma première commande chez vous, alors que j'habite la rue d'à côté,
et ben
depuis
voilà,
deux
en fait,
ans. On a pris des produits qui venaient d'une ferme d'à côté et du coup ça nous a donné, enfin moi ça m'a donné envie de consommer des produits locaux et qui sont aussi meilleurs.
C'est vrai qu'il y a un changement de consommation qui est important et c'est un virage à prendre pour nous, producteurs, qui distribuons nos produits sur les marchés et aux clients.
On a fait du changement pendant le confinement et puis on se dit ben pourquoi pas continuer.
Oui, je continue parce que bon, faut aider nos cultivateurs. Nos producteurs français, voilà.
Voilà quelques témoignages recueillis au micro de LCI au mois de mai. Si la consommation a considérablement ralenti pendant le confinement, elle est loin d'avoir complètement disparu pendant cette période si particulière. Entre achats en ligne et retour au circuit court, plusieurs tendances déjà bien émergées ont trouvé matière à se renforcer dans ce contexte inédit. Mais alors que les tribunes appelant à un monde d'après plus sobre, plus frugal se multiplient, la possibilité d'un tel virage est loin d'être certaine. En effet, dans un environnement plein d'incertitudes, dans lequel les déplacements seraient limités, la consommation apparaît au contraire pour certains comme un ultime refuge, une source de réconfort même. Alors qu'un certain consensus apparaît autour de la nécessité d'une transition écologique, les pratiques semblent ainsi davantage s'orienter vers la sélection plus rigoureuse de produits, plus durable, que vers la décroissance. Grand gagnant de cette situation intermédiaire, le retour au local, plébiscité pour des raisons environnementales, mais également dans une perspective protectionniste, séduit une part importante de la population, non seulement en France et en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Alors, dans quelle mesure cette crise sanitaire a-t-elle accéléré le processus de mutation de nos modèles de consommation? À quel point ceux-ci sont-ils réellement remis en cause? Quelle alternative se dessine pour demain? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Sophie Dubuisson-Kellier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous entend très loin, mais vous allez arriver, j'en suis sûr. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. Vous aviez signé en 2018 aux presses de Sciences Po la consommation engagée. Également avec nous, Philippe Moati, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, l'OPSOCO, comme on dit. Et vous aviez vous signé la Société Malade de l'Hyperconsommation. Il en sera question évidemment de l'hyperconsommation aujourd'hui. C'était chez Odile Jacob. On a vu un certain nombre de comportements émerger avec le confinement. Alors émerger pas vraiment parce que en réalité ils étaient déjà là, mais en tout cas s'accélérer. Je pense à la question du commerce en ligne. Je pense à la multiplication des services de drive, comme on dit en bon français. Je pense au recours des produits bio, du circuit court, au retour aussi peut-être des petits commerces de proximité, tout un tas de choses dont on va parler ce matin. Mais est-ce que ces tendances semblent se confirmer avec le déconfinement ou finalement le monde d'avant est déjà en train de reprendre ses droits? On va commencer avec vous, Sophie Dubuisson-Kellier.
Oh bien, je crois qu'on a un petit peu des deux, forcément. C'est-à-dire que cette période est pas une période qui permet de passer d'un point A à un point B, mais qui voit plutôt des séries de mouvements, parfois dans des sens contraires. Donc on a effectivement, comme vous l'avez dit, un renforcement d'un certain nombre de pratiques qui étaient déjà là. Je pense au circuit court, je pense à une consommation qui se veut un peu réflexive. On a également le renforcement du commerce en ligne, hein, qui n'est pas quelque chose qui a émergé pendant ce confinement, mais qui s'est en effet renforcé. Et puis, on a aussi toute une série de formes de consommation qui restent très très traditionnelles, qui restent celles de gens qui ont peu accès à la consommation et qui continuent en fait d'avoir des pratiques qui leur paraissent tout à fait nécessaires pour participer à la société. limite. Et on voit souvent la consommation comme, vous l'avez dit, quelque chose qui est un refuge, mais la consommation, c'est d'abord une forme de participation à la société. Donc c'est d'abord une façon aussi d'aller vers les autres.
Philippe Moati, que nous disent les études menées par l'OPSOCO, parce que vous avez continué à faire des études pendant le confinement et après, est-ce que ça confirme que les nouvelles habitudes que nous avons prises pendant le confinement se pérennisent ou au contraire, on reprend nos habitudes telles qu'elles existaient avant le confinement ?
Ben c'est justement un petit peu des deux.
Ouais.
On était très attentif évidemment à la reprise de la fréquentation des commerces à l'issue du déconfinement et effectivement les consommateurs étaient plutôt au rendez-vous. Alors il y a des gros écarts selon les secteurs d'activité, mais en gros les professionnels sont plutôt agréablement surpris. Dans certains secteurs on fait plus que la même période l'année dernière, d'autres sont un petit peu en dessous, mais globalement les consommateurs sont plutôt revenus dans les magasins. En dépit des difficultés objectives hein, qu'il y a à les fréquenter, dans les grandes villes, difficultés d'accès, et puis il y a une expérience d'achat dans le magasin qui est quand même encore fortement dégradée par le respect des gestes barrières. Mais alors, le petit bémol, c'est que dans les enquêtes, lorsqu'on demande aux gens qui ont procédé à des achats depuis le déconfinement à quelle logique ça correspondait, à plus de 70%, ils nous disent que c'était des achats nécessaires. Donc en fait, on a affaire pour l'instant en grande partie à une consommation de rattrapage, des consommations qu'on n'a pas pu faire durant le confinement, des besoins qui se sont accumulés et qu'on essaye de satisfaire au plus vite parce qu'il y a une forme d'urgence. Hein. Notamment, on a vu le secteur de l'habillement pour enfants se porter très bien, le secteur du bricolage et de l'aménagement de la maison. Donc on voit très bien que ce sont des besoins qui sont nés durant le confinement et qui ont donné lieu à des achats pour de nécessité en quelque sorte.
Oui, donc il n'y aura pas forcément de logique de rattrapage.
Et il y a une forme de rattrapage parce que ces achats n'ont pas pu se faire, donc on se rattrape en quelque sorte, mais on n'est pas encore en mesure de dire si on va revenir au mode de consommation d'hier. Quoi. Mmh. C'est la grande incertitude. Est-ce que cette période nous a amené collectivement à nous montrer plus réflexifs par rapport à la consommation, à la place qu'elle tient dans nos vies, à la prise en considération de son impact environnemental et sociétal? Est-ce que ça va perdurer parce que dans nos enquêtes, on a vu hein, pendant le confinement que ces questions ont émergé, alors pas dans toute la population, je crois qu'il faudra vraiment en parler, hein. Il y a vraiment des clivages importants au sein de la population. Et donc la vraie question est de savoir si l'épisode dramatique qu'on a vécu va durablement affecter le rapport à la consommation et le contenu de la consommation. On a quelques indices, mais absolument aucune certitude en la matière.
En tout cas durablement, probablement, mais en tout cas dans une certaine frange de la société, pas dans l'ensemble de la société, ça c'est certain.
Absolument, ouais. Je crois qu'il faudra revenir sur ce point, il est absolument essentiel.
On y reviendra. Sophie Dubuisson-Quellier, il faut parler un peu de cette convention citoyenne qui vient de rendre son travail. Il y a 150 mesures qui concernent plein de choses, mais il y en a quelques-unes qui concernent en particulier la question de la consommation. Le texte final appelle à moins consommer, à consommer mieux. Une consommation plus sobre et plus vertueuse sur le plan environnemental doit être possible pour tous, quel que soit le pouvoir d'achat. Voilà ce que dit le texte. Il y a plusieurs propositions très concrètes sur le volet de la consommation. Rendre obligatoire l'affichage et l'impact carbone des produits. Réguler la publicité, ça sera d'ailleurs l'objet d'un focus, un petit élément tout à l'heure, on va en parler avec Renaud Fossard. Limiter les emballages et l'utilisation de plastique à usage unique. Faire de l'éducation de la formation pour sensibiliser à la consommation responsable, je les donne clairement de façon exhaustive. Votre regard sur ces propositions, et est-ce que vous diriez que là, le politique a une opportunité peut-être inédite pour accompagner la transition que tant appellent de leur vœu depuis si longtemps? On verra si réellement le politique est disposé à saisir cette opportunité, mais je voudrais votre regard d'abord sur ces propositions de la Convention citoyenne.
On peut déjà saluer ce travail énorme qui a été réalisé par les citoyens et qui souligne tout à fait la capacité qu'il existe dans nos sociétés d'organiser du débat public sur ces questions-là. On a souvent trop tendance à dire que soit ça n'intéresse pas les gens, soit ils n'ont pas envie de faire les investissements pour s'y intéresser. C'est absolument pas le cas et c'est ce que souligne ce travail. Et en effet, la Convention citoyenne pour le climat a mis le doigt comme d'autres démarches hein, d'ailleurs sur les enjeux qui sont autour de la consommation en appelant un certain nombre de régulations, donc effectivement des interventions de la part de l'action publique.
C'est plutôt des bonnes propositions pour vous?
Oui, ça me semble aller dans le bon sens, et surtout une partie de ces propositions touche des dimensions un petit peu structurelles. Je pense notamment à tout ce qui concerne la communication, la publicité. On sait que très bien qu'une partie de la consommation en fait est la résultante aussi d'une série de normes sociales qui se construisent collectivement. En fait, ce sur quoi on s'accorde pour dire ce que c'est que vivre bien. Et qui va définir du coup un certain nombre de standards autour de la consommation. Donc en effet, cibler ces formes de communication, c'est aussi une façon de dire on veut peut-être davantage débattre sur cette jauge en fait des niveaux de consommation et des formes de consommation. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que souvent on cible la consommation, les consommateurs, mais finalement dans les propositions de la convention, il y a aussi des messages en fait qui vont à l'endroit en effet de la régulation publique, mais aussi des acteurs économiques eux-mêmes. Et finalement, si on veut attendre des changements du côté de la consommation, ces changements ne viendront pas uniquement des consommateurs eux-mêmes, mais de l'organisation de nos systèmes économiques, de l'offre, de la régulation du secteur économique. Et ces réponses-là seront d'ailleurs assez déterminantes pour savoir ce qui va être pérenne dans les changements que nous observons aujourd'hui.
Alors justement, Philippe Moati, cette régulation, est-ce que nos responsables sont enclins à l'engager ? On a entendu l'allocution du président le 14 juin dernier. Il a annoncé clairement une nouvelle étape de son quinquennat. Et dans le même temps, on a quand même des signaux qui nous font penser que les choses vont pas forcément changer de façon radicale. On a des plans de soutien à des industries, je pense à l'automobile, je pense à l'aéronautique. Alors même si, effectivement, on essaye de pousser vers quelque chose de plus propre, je mets des guillemets, plus durable, il n'empêche qu'on a quand même quelque chose de l'ordre d'un soutien d'un système productif qui existait déjà avant le confinement. On a toute une rhétorique autour du travailler plus, du produire plus. Donc on sent qu'on n'est pas véritablement dans la révolution anticonsumériste qu'on pourrait, en tout cas que certains pourraient espérer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron, là, a vraiment l'envie, le désir d'enclencher quelque chose sur nos modèles de consommation, Philippe Moati ?
Alors, je ne suis pas dans son esprit, dans sa tête, mais je pense que le gouvernement est tiraillé entre deux injonctions assez contradictoires. La première, c'est de refaire partir la machine économique le plus vite possible. Et je crois que c'est la priorité du gouvernement. Et donc là, on appuie sur le bouton qu'on connaît déjà, qu'en quelque sorte, hein, on fait repartir à l'identique. Et en même temps, et c'est bien dans l'esprit de ce gouvernement, je crois que le gouvernement a pris note d'un désir d'autre chose. Nous avons mis à jour une étude que nous avions réalisée l'année dernière sur les utopies. À quelle société idéale les Français aspirent-ils, quoi. Et on a confirmation du résultat qu'on avait déjà l'année dernière, que des trois sociétés idéales que nous avons testées, celle qui l'emporte très largement est l'utopie écologique, une société tendue vers la sobriété, quoi. Donc ça correspond à une vraie attente de la population, en tout cas au plan des idéaux, hein. Et donc ça, je pense que le gouvernement en est parfaitement conscient. De plus, tout le débat des intellectuels, toutes les prises de parole des intellectuels durant cette période de crise a porté sur la nécessité de parvenir au monde d'hier, de profiter de cet événement pour enclencher une transition écologique. Donc je pense que c'est bien compris. Simplement, à court terme, il faut faire repartir la machine et en même temps donner des inflexions qui, structurellement, pourraient amener à changer les choses. Par ailleurs, je rappelle que même si, au plan des idéaux, il y a un certain consensus sur l'idée d'aller vers une société plus sobre, il y a aussi des résistances quand on arrive à des choses très concrètes. Il y a des résistances. Vous avez bien vu la levée de bouclier immédiate concernant l'idée de réduire la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute. Je vous rappelle que c'est l'idée de la mise en place d'une taxe carbone qui avait été le déclencheur de la crise des gilets jaunes. Donc dans une période où il y a toute une fraction de la population qui a été quand même durement affecté par la crise et qui le sera encore plus d'ailleurs dans les mois qui vont venir, il faut faire très attention à ce que les mesures qu'on prenne en matière de changement du modèle de consommation n'aient pas un impact négatif, objectif et symbolique auprès d'une fraction de la population qui est déjà aujourd'hui complètement ébranlée, quoi.
Sophie Dubuisson-Kellier, si on regarde un peu l'histoire sur la période récente, parce qu'on se dit qu'a priori, priori, la transformation, elle vient plutôt d'un moment de crise, que les crises sont propices précisément à des bouleversements profonds et donc propices à une transformation de nos habitudes de consommation. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est ce qu'on voit quand on regarde l'histoire, ou est-ce que en réalité, ça nous montre que les crises ont plutôt tendance à figer les choses et c'est essentiellement dans des périodes de forte croissance que se jouent les transformations de nos habitudes de consommation ? Sophie Dubuisson-Kellier. Sophie Dubuisson-Kellier, vous m'entendez ? Visiblement non. Alors,
allô ?
Oui, ça y est, oui, vous êtes oui. Avec nous, Sophie Dubuisson-Kellier. Preuve qu'on est bien en direct. Hein. je vous demandais si... je ne sais pas si vous avez entendu la question.
Ça parlait de la crise, mais
alors,
j'ai raté.
Oui, alors, je vous demandais si les crises, de façon générale, quand on regarde un peu l'histoire récente, nous montrent que c'est à ce moment-là que se jouent les transformations de nos habitudes de consommation, ou au contraire, c'est plutôt dans les moments de forte croissance que s'opèrent les grands bouleversements en matière d'habitudes de consommation.
Alors c'est plutôt en fait dans les moments difficiles que la consommation en fait se trouve modifiée. Pourquoi ? Parce que la consommation c'est d'abord des routines, c'est d'abord des verrouillages, c'est d'abord des façons de faire qui sont très installées et compliquées à défaire. Et donc il faut plutôt des changements un peu brutaux, un peu radicaux, pour arriver à faire sauter en quelque sorte ces routines et ces verrouillages. Donc effectivement les crises économiques, cette crise totalement inédite hein, qui a amené à des fermetures de magasins, qui a amené à obliger les gens, pour une partie d'entre eux, à rester chez eux, a nécessairement en fait forcé les gens à sortir de leur routine, de leurs habitudes. Donc ce sont plutôt ces moments-là. En revanche, ces moments-là sont rarement créateurs de dynamiques complètement nouvelles. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va plutôt renforcer des dynamiques en cours et puis provoquer toute une série de bouleversements qui vont un petit peu dans des sens contradictoires et créer un peu une période de confusion difficile à lire.
Vous parlez de changements radicaux, Philippe Moati. Allons justement dans un changement qu'on peut considérer comme radical. Je ne sais pas si vous avez lu cette récente tribune publiée dans Libération par le philosophe Dominique Bourg, qui appelle à sortir de la frénésie consumériste, et avec notamment une proposition qui est quand même, me semble-t-il, assez nouvelle, si ce n'est radicale, avec ce système de quotas de consommation. Je cite ce qu'il écrit dans sa tribune. « À chaque achat, grâce à une carte à puce, vous faites défalquer de son coût en termes d'empreinte écologique et d'empreinte carbone. Vous êtes, pardon, défalqué. C'est très égalitaire, car tout le monde dispose des mêmes quotas, contrairement à la taxe qui, même avec un système de redistribution, pénalise les plus pauvres. C'est un système qui vous paraît... intéressant, qui pourrait effectivement nous conduire tous vers une modification de nos habitus ?
C'est à réfléchir. Je pense que c'est un peu tôt, en tout cas pour imaginer un tel dispositif à une échelle globale.
Ça nous bouscule un peu quand même en tant que consommateur.
Ça nous bouscule complètement. Peut-être qu'il faut y aller secteur par secteur et que peut-être le transport aérien serait le premier secteur pour lequel on pourrait tester ce genre d'approche qui effectivement a le mérite d'être égalitaire, alors que les taxes, on le sait, pour les plus riches, c'est pas un obstacle en fait. Mais en fait, là, on est en train de pointer les leviers hein, qu'on peut activer pour essayer de changer de modèle de consommation. On évoque la régulation, c'est le plus violent, hein, parce qu'on va forcer les acteurs à se comporter différemment. Mais il y en a deux autres qu'on peut essayer d'exploiter en parallèle, pour qu'on ne soit pas dans la coercition simplement. Il y a d'abord, du côté des consommateurs, le changement culturel, c'est de faire en sorte peut-être qu'on soit moins collectivement accro à la consommation, que la consommation retrouve la place qu'elle devrait occuper dans nos vies, et pas une place dominante, en tout cas pour certaines fractions de la population. Et puis les entreprises.
C'est quoi votre levier pour ça ?
Alors, ça, on pourra peut-être en reparler, mais en gros, l'hypothèse sur laquelle je travaille, c'est que si la consommation a pris autant de place dans nos vies, c'est qu'elle remplit une sorte de vide existentiel. Pour nous transformer en consommateurs, il a fallu faire reculer tous les grands récits, toutes les croyances, les idéologies, pour que finalement on se réfugie derrière la consommation, à la fois pour se construire une identité, pour créer des liens avec les autres. Enfin, la consommation est devenue quelque chose d'extrêmement important pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, surtout quand on n'a pas la chance d'avoir un capital culturel qui nous permet de nous construire sur d'autres bases, quoi. Donc si on imagine faire reculer la consommation, il faut remplir le vide par autre chose, quoi. Et c'est là qu'on vient de réfléchir. Par quoi est-ce qu'on pourrait remplir nos vies de manière qui soit pas autoritaire, bien évidemment. Et moi, la piste sur laquelle je travaille, c'est de c'est de permettre à chacun de découvrir un peu pourquoi il a du goût, pourquoi il a du talent, à travers des activités, notamment des activités de loisirs actifs, parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir s'épanouir et de se réaliser dans le travail. Et donc, le faire, F-A-I-R-E, hein, le faire soi-même, je crois, est une piste à creuser, qui répond d'ailleurs à une motivation très forte. Hein. On l'a vu pendant la crise, beaucoup de gens ont fait des choses par eux-mêmes et ont trouvé du plaisir, quoi. Mmh. Et donc quand on remplit sa vie avec une activité qui nous épanouit, qui nous conforte dans notre identité, qui nous crée des liens avec les autres, ben finalement on a moins besoin de la consommation. Donc je crois qu'il y a tout un travail à faire qui serait du registre du culturel, hein, pour faire reculer l'emprise de la consommation sur nos vies individuelles, mais ça ne peut pas se faire sans, en parallèle, un travail du côté des entreprises. Parce que pourquoi sommes-nous devenus des consommateurs? Parce qu'on est dans un système économique où les entreprises ont besoin de croissance, et la consommation étant l'aboutissement du circuit économique, eh bien il faut que la consommation soit toujours en croissance. Et donc pour ça, même si les besoins sont saturés, eh bien à travers notamment la publicité, le marketing, eh bien on va stimuler en permanence ce besoin de consommer, parce qu'on est dans une logique de croissance quantitative. Donc je crois qu'en parallèle, il faut aussi avoir un raisonnement, une réflexion sur comment on peut faire évoluer les business models d'entreprise, les modèles économiques d'entreprise, pour qu'ils soient moins dépendants des quantités vendues et arriver à des formes de dématérialisation de la valeur. Alors ça peut ne pas suffire, hein, mais vous voyez, je pense qu'il faut travailler les trois leviers en même temps. Les entreprises vers d'autres business models pour qu'elles créent de la valeur, parce que c'est leur raison d'être dans une économie capitaliste, mais en consommant moins de ressources, hein, étant moins dans l'incitation au toujours plus. Les consommateurs les rendent moins perméables à cette envie de consommer toujours plus, et puis pour accélérer le mouvement, une couche de régulation pour forcer les acteurs à aller un peu plus vite dans ces directions.
Bon, bah voilà, on a la recette. Merci Philippe Moitié. Sophie Dubuisson-Kellier, pour poursuivre un petit peu, et j'allais dire mettre un peu les mains dans le cambouis, parce qu'il faut bien, j'évoquais tout à l'heure dans mon introduction, la question des petits commerces qui visiblement ont plutôt tiré leur épingle du jeu durant le confinement, la question des supermarchés aussi qui, alors là, eux pour le coup ont vécu un moment difficile, parce qu'il semble que les consommateurs s'en soient un tout petit peu détournés. Est-ce que là on a encore une fois des phénomènes qui risquent de s'accentuer demain? Est-ce que en réalité les petits commerces pour lesquels nous nous inquiétions tant ces dernières années vont en réalité faire leur grand retour et il n'y a plus de raison de s'inquiéter pour eux? Est-ce que en revanche les supermarchés, les hypermarchés dont on pensait que c'était des acteurs incontournables et que au fond c'est eux qui finalement imprimaient le rythme de nos modes de consommation, et bien eux en revanche sont en danger? Comment vous voyez les choses, Sophie Dubuisson-Kellier?
Alors, c'est intéressant, parce que sur ces histoires de distribution, hein, parce que finalement c'est le fond de votre question, je dirais que le commerce, la distribution sont des secteurs qui sont en révolution permanente depuis toujours, et en même temps qui ont eu probablement tendance à faire durcir en quelque sorte des systèmes, à faire reposer l'organisation sur une hypothèse assez forte, hein, qui est celle d'une organisation autour de la consommation de masse. Et finalement, enfin moi je rejoins assez ce que vient de dire Philippe sur le fait que en fait ces changements de autour de la consommation, cette organisation autour d'une consommation qu'on a tendance comme ça à voir effrénée, sans limite, finalement elle est moins la réponse des individus ou l'expression de leurs aspirations propres que le produit de nos organisations économiques et commerciales, qui doivent en effet, puisque c'est leur modèle économique respectif, produire et vendre en masse. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est en crise, pas structurellement, mais par l'effet de ces actions collectives qui s'expriment ici ou là, et qui finalement remettent en cause ces choix que nous avons faits, ces choix qui sont d'abord des choix économiques. Donc en effet, peut-être que le petit commerce de centre-ville bénéficiera du coup d'une façon un petit peu inédite, j'allais dire, de la manière dont on se pose la question de ces organisations économiques. Mais naturellement, ça se fera aussi, à mon sens, avec de l'action publique, avec du soutien notamment des municipalités et avec des organisations économiques qui vont devoir également se renouveler.
Philippe Moati, sur cette crise de la distribution, parce que alors qu'on se réjouit du fait que les petits commerces ont plutôt bien résisté à la crise, on s'apprête dans le même temps à ouvrir un nouveau centre de e-commerce dans le sud de la France, en l'occurrence du côté du Pont du Gard, et en particulier donc un projet d'entrepôt d'Amazon qui suscite d'ailleurs d'importantes oppositions chez les habitants. C'est d'ailleurs la une de Libération aujourd'hui. Mais si on dépasse la critique pure et simple, Philippe Moati, de ces plateformes, ces entrepôts d'Amazon, faut peut-être rappeler que précisément pendant la crise, les consommateurs se sont tournés vers cet acteur qui a continué à livrer des produits, grâce d'ailleurs à ses sites étrangers, parce que entre-temps, c'est pas le sujet, mais il se trouve que il a choisi de fermer ses sites en France suite à une décision judiciaire qui l'obligeait pas à fermer les sites, mais il se trouve que c'est ça qui s'est passé. Mais le fait est que les consommateurs vont vers ce type d'acteur. Alors, est-ce que c'est toujours aussi pertinent d'opposer les petits commerces et les plateformes en ligne, compte tenu du fait qu'en réalité, les habitudes de consommation vont vers quelque chose d'un peu hybridé, quoi. Est-ce que on a en réalité un modèle, le modèle de demain, c'est une cohabitation entre ces deux choses, Philippe Moati?
Très certainement, très certainement. D'abord parce qu'encore une fois, la population n'est pas homogène, loin s'en faut. Et puis parce que pour chacun d'entre nous, nos comportements sont toujours une forme de compromis entre des idéaux et des contraintes. Donc les idéaux, je le dis, nous tirent plutôt collectivement vers l'idée d'une transition, vers une société plus écologique, où la consommation tient moins de place, change de forme, etc. Mais ensuite, il y a les contraintes. Et parmi les contraintes, vous avez les contraintes de gestion de la vie quotidienne. Et la contrainte du pouvoir d'achat, on va peut-être en reparler, parce qu'il y a une crise économique qui a démarré, qui va s'accentuer dans les prochains mois. Et donc voilà, on le voit entre les deux. Et donc le e-commerce, c'est souvent, quand on interroge les gens qui achètent en ligne, c'est toujours deux arguments qui viennent en premier, le prix et puis la praticité. Une praticité qui tient à la fois à l'étendue du choix, qui est colossale. Je rappelle que Amazon vend en France 250 millions de références, là où un grand hypermarché en vendrait 80 000. Donc vous voyez, il y a forcément le produit que vous rechercher, et avec une efficacité en termes de service client, notamment des délais de livraison extrêmement courts. Donc là, c'est le côté contrainte qui l'emporte. Depuis le début du confinement, nous gérons une communauté en ligne, une cinquantaine de personnes que nous interrogeons tous les jours. Et on a observé, c'était très amusant, à la mi-temps du confinement, alors que dans un premier temps, vraiment, la consommation était en rade, y compris la consommation en ligne. Mais à partir de la deuxième mi-temps, c'est reparti. Et on a beaucoup de personnes qui étaient dans notre communauté qui nous disaient, j'achète, je fais du lâche-écran en quelque sorte, et puis je vais chez Amazon. Je les aime pas, parce qu'effectivement, ils jouent pas le jeu, c'est un géant, et on n'aime jamais les géants, on n'aime pas les dominants en quelque sorte, mais on y va quand même. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a tout, et puis c'est extrêmement efficace dans cette période un peu troublée en matière de logistique. Avec Amazon, je sais que je vais être livré. Donc voilà, on a toujours cette tension entre des pulsions contradictoires, ce qui d'ailleurs contribue à fragmenter le paysage commercial. Ça, c'est une dynamique qu'on observe depuis plusieurs décennies désormais. Un paysage commercial qui est de plus en plus divers pour répondre à la fois à l'hétérogénéité des consommateurs, mais aussi à l'hétérogénéité des besoins de chacun d'entre nous, ce qui fait qu'on peut fréquenter son libraire de quartier, mais aussi acheter des livres sur Amazon.
Donc, en fait, le vrai problème, Philippe Moati, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire on les aime pas, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut entendre, c'est-à-dire pour des raisons morales essentiellement. On considère que Amazon ne paye pas les impôts qu'elle devrait payer, etc., etc. Mais ça, c'est une chose. Il n'empêche que ce modèle-là a une place dans nos habitudes de consommation. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a peut-être là une opportunité pour créer une alternative à Amazon. Vous avez signé un papier récemment sur le site Oussek Erika, et vous dites qu'il est l'heure aujourd'hui de construire une réplique à Amazon. On a les moyens, ici en particulier en France, de construire un tel acteur alternatif?
Très 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 difficile. C'est trop tard, en quelque sorte. Vous savez, l'économie des plateformes, c'est une économie qui donne l'avantage à celui qui a pris de l'avance, quoi. Et cet avantage devient cumulatif, et une fois que la distance est trop importante par rapport au suiveur, elle est quasiment irréversible, quoi. Donc on peut pas l'affronter de face, en quelque sorte, Amazon. C'est trop tard. C'était faisable il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. Donc il faut le prendre de travers, si vous voulez. Et donc de travers, ça peut être quoi? Ça peut être dans l'alimentaire, parce que commence à peine dans l'alimentaire. Il est mets les moyens. Et donc, je suis ravi d'avoir appris hier que Carrefour lançait une place de marché alimentaire. Donc, en plus de son offre propre, il va y greffer des offres supplémentaires venant de marchands qui apporteront notamment des produits du terroir. Donc là, c'est une opportunité parce que Carrefour et tous les distributeurs français ont les réseaux de points de vente qui sont des très bons relais pour faire du e-commerce alimentaire. Donc, sur l'alimentaire, c'est pas encore perdu. Sur le non-alimentaire, je crois que c'est fini, sauf à prendre les choses de biais. Et donc, moi, je défendais l'idée d'essayer de construire aujourd'hui des plateformes locales. Pour l'instant, Amazon est encore un acteur global. Je pense que la crise l'a révélé. Il y a un vrai potentiel pour organiser des plateformes locales qui mettent en rapport les consommateurs avec les commerçants de leur quartier ou de leur ville, qui mettent les consommateurs en rapport les uns avec les autres pour développer la consommation collaborative. Mais tout ça sur la base d'une plateforme technique qui serait pensée de manière globale par des acteurs puissants, des acteurs européens, hein, des grands distributeurs, de la Poste pour la logistique, par exemple, des entreprises de l'informatique pour gérer les data, etc. Je pense que là, il y a une vraie opportunité, car les enquêtes nous le disent, hein, il y a vraiment une volonté de recentrer nos vies sur la proximité et le local. Ouais. Donc il y a une attente, et pour l'instant, Amazon n'est pas en capacité de le faire.
Sophie Dubuisson.
Ça sera pas toujours le cas. Hein.
Ouais. Sophie Dubuisson-Quellier, c'est intéressant sur ce point-là. Vous y croyez, ces plateformes locales qui proposeraient effectivement d'abord de mettre en avant le circuit court, qui mettraient en avant le bio, parce que ils vont quand même se retrouver avec des concurrents assez sérieux que sont les supermarchés, les hypermarchés qui eux aussi, on le voit bien, sont en train de miser de plus en plus sur le local, le circuit court, le bio, etc., etc. On a l'impression que le salut de ces hypermarchés qui vont pas très bien en ce moment passera précisément par ça. Donc là, on va avoir une concurrence ardue, Sophie Dubuisson-Quellier.
Oui, de toute façon, on va en effet avoir une distribution qui va se fragmenter davantage parce que on voit à travers l'histoire que chaque fois que le commerce et la distribution ont évolué, en fait, les différents circuits ne se sont pas remplacés les uns les autres, mais se sont ajoutés les uns aux autres, offrant des possibilités relativement variées aux consommateurs. Mais sur ces affaires de circuits courts, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est moins une affaire de consommation que d'organisation de la production. Il y a beaucoup de producteurs qui se sont retrouvés dépourvus lorsque leurs débouchés habituels dans la restauration ou dans les marchés de plein air, par exemple, se sont fermés et qui sont allés en fait trouver le contact avec les consommateurs. Donc il y a eu à cette occasion des choses assez intéressantes. Notamment, ils ont été pour certains en mesure de se réorganiser, parfois aussi de faire des alliances avec des circuits plutôt organisés sur le long, hein, y compris avec la grande distribution. Et puis un certain nombre d'entre eux ont aussi, alors surtout ceux qui étaient déjà installés, réussi à capter en fait d'autres consommateurs qui n'étaient pas du tout clients de ce type de circuit.
Donc, mais ça peut marcher sur le long terme, cette ambition de se passer de l'intermédiaire. Au fond, il s'agit de ça parce qu'on voit bien que, en réalité, quand on veut atteindre certains niveaux de rentabilité, c'est plus efficace d'avoir des intermédiaires parce que ce principe-là qui vise à faire fi des intermédiaires, on l'avait déjà il y a plus d'un siècle avec Félix Potin qui lui aussi cherchait à se passer des intermédiaires. C'est pas nouveau du tout, ça.
Oui, vous avez parfaitement raison. Alors, en même temps, un certain nombre de circuits courts sont quand même des circuits avec des intermédiaires, en fait. On distingue la longueur, en gros, la distance géographique et puis la distance organisationnelle. Donc, on peut aussi avoir des intermédiaires. En fait, on a une grande complexité hein, de cette réalité-là et on peut avoir des formes d'organisation qui sont assez variées. En effet, est-ce que ça peut durer ? La question, en fait, c'est il est nécessaire de prendre en compte cette forte segmentation de la consommation. Souvent, quand on raisonne en fait sur ces changements, on raisonne avec en tête une population très très particulière qui est loin d'être majoritaire en fait parmi la population, qui sont ceux effectivement qui sont intéressés par ces changements, par ces circuits courts, par ces nouvelles propositions, par ce monde d'après, etc., qui ont beaucoup voix au chapitre, souvent dans les médias, qui font valoir en fait ces réflexions. autour de une consommation plus réflexive. Mais comme on le disait au tout début de l'émission, on a aussi une grande partie de la consommation qui est complètement organisée autrement, qui a d'abord des contraintes et pour laquelle la consommation c'est d'abord un espace de desserrement de ces contraintes. Comme je le disais, mais j'insiste là-dessus, c'est d'abord des formes de participation à la société, s'interdire des formes de consommation, des modes de consommation, même des niveaux de consommation, c'est s'interdire de participer à la société. Donc ce sont aussi des considérations qu'il faut prendre en compte. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, ça risque d'être très compliqué d'imaginer en fait maintenir ces circuits qui sont organisés différemment, simplement avec une seule partie des consommateurs.
On est avec vous, Sophie Dubuisson-Kellier, et vous, Philippe Moitier, autour de cette semaine consacrée à nos besoins d'évasion. Et aujourd'hui, on parle de consommation, consommer l'ultime réconfort. On va parler un peu de publicité. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Lisez Andrew Lawton, kilomètre 42. Tout à coup, quelque chose nous a éblouis. Ça avait une forme humaine et élégante. Ils nous ont proposé de nous emmener. Ils étaient quatre, mais il y avait largement de la place pour nous. Tout le monde semblait très détendu. Nous avons beaucoup roulé, et pourtant nous n'avions pas l'impression d'être dans une voiture. Était-ce ce qu'on appelle un pur moment de bonheur? Je le crois. Je sais que ce jour-là, j'ai réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous. J'ai fait un voyage dans l'espace. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace.
Voilà, une publicité pour la Renault Espace, on est en 1996. On va parler de cette question de la publicité qui se retrouve sur le banc des accusés. Bonjour Renaud Fossard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes responsable du programme interassociatif SPIM, Système Publicitaire et Influence des Multinationales, et vous avez notamment coordonné un rapport Big Corpo sur la question de la publicité. Il se trouve que la semaine dernière, la Convention Climat, dont on a déjà un petit peu parlé, a rendu son rapport final avec tout un volet sur la publicité. Les citoyens qui ont été sollicités demandent, je cite, à interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les supports publicitaires, demande également de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation et mettre en place aussi des mentions pour inciter à moins consommer. Que vous inspirent ces recommandations? Est-ce que ça correspond un peu aux attentes du collectif d'associations dans lequel vous êtes engagé?
Tout à fait, elles vont dans le bon sens. On voit que quand des citoyens se posent la question du rôle de la publicité dans notre économie, dans nos habitudes de consommation, elles concluent rapidement à la nécessité de réguler ces activités de communication, donc de publicité commerciale, mais aussi de marketing promotionnel. Il faut vraiment tout englober parce que tout ça ensemble pèse plus de 30 milliards chaque année. Il faut prendre en compte l'importance de ces montants. Donc bien évidemment, la Convention citoyenne va dans le bon sens. Ce sont des premiers pas. On est quand même sur les enjeux les plus symboliques. Évidemment, interdire la publicité pour les produits les plus polluants, puisqu'on sait aujourd'hui que la publicité fait augmenter le niveau de consommation de ces produits. Ça paraît nécessaire, de même qu'interdire des écrans. Mais il faudra derrière aller sur des enjeux plus structurels, qui sont ceux vraiment de réguler les discours et diminuer la taille du marché publicitaire en France.
Oui, parce qu'on peut penser parfois qu'en réalité, la publicité, c'est un outil pour les entreprises pour finalement gagner des parts de marché et un marché qui serait fixe. En réalité, c'est pas ce que montrent les études scientifiques. Plus il y a de publicité et plus on achète. Il y a une corrélation directe.
Voilà, c'est quelque chose qui maintenant est clarifié par l'économétrie, par la science économique. Les études sont de plus en plus convergentes et massives et vont dans ce sens. Donc, effectivement, la publicité de Peugeot ne fait pas que voler des parts de marché à Citroën et à Renault. Elle fait aussi augmenter le nombre de consommateurs de voitures totales en France. Donc, considérant que le premier investisseur publicitaire en France est l'automobile, on peut tirer la conclusion que le nombre d'automobiles consommer, acheter chaque année est plus important que s'il y avait moins de publicité ou pas de publicité pour l'automobile. Le deuxième, c'est la grande distribution. Bref, ce sont des secteurs, ce sont même des acteurs, c'est une poignée d'acteurs, c'est-à-dire que moins de 1% des entreprises a accès au marché publicitaire. Précisément, 600 entreprises contrôlent 80% de ce marché.
Ouais, donc c'est une pratique en fait très inégalitaire, y compris dans le monde des entreprises.
Ah ben complètement, c'est absolument pas au service des petites et moyennes entreprises ou des autres économies, c'est vraiment pour une poignée de très très grandes multinationales qui font de la publicité commerciale pour vendre plus et qui font aussi de la communication corporelle pour protéger leur réputation. Donc maintenant que cet éclairage est là, il faut savoir que ça fait plus de 50 ans qu'on se demande si effectivement la pub peut créer des besoins ou elle ne fait que orienter des préférences de consommateurs qui avaient déjà prévu d'acheter. Donc voilà, maintenant avec ce nouvel éclairage, une augmentation nette de la consommation liée aux dépenses publicitaires, on se pose la question écologique de quels sont les secteurs, quels sont les produits sur lesquels ces montants de communication commerciale sont dépensés. Et donc la Convention citoyenne apporte des réponses évidentes à ces problèmes.
Renaud Fossat, il y a une formule là que vous venez d'utiliser sur laquelle il faut se pencher un tout petit peu, la communication corporate, parce que visiblement, ça semble, en tout cas en lisant votre rapport, être un volet de la publicité particulièrement problématique et sur lequel il y a un besoin impétueux de régulation. Vous nous dites en quelques mots ce que c'est la communication corporate et comment est-ce qu'on peut imaginer une régulation de ce type de communication, de publicité ?
Alors, la communication corporate, c'est l'autre volet qui s'ajoute à celui de la communication commerciale. Les entreprises communiquent par la publicité et le marketing pour augmenter le nombre de produits qu'elles vendent, mais également pour protéger leur réputation parce que celle-ci dispose d'une vraie valeur financière en bourse. Par conséquent, quand vous êtes une entreprise pétrolière ou quand vous êtes une entreprise de la fast fashion qui vend beaucoup d'habits et qui est critiquée pour, par exemple, sa consommation d'eau, il vous faut communiquer non pas pour vendre plus, mais également pour dire que vous respectez les droits de l'homme, que vous respectez l'environnement, que vous êtes une entreprise modèle sur des enjeux sociétaux. Aujourd'hui, c'est un critère pour un nombre croissant de consommateurs. Et donc, il vous faut communiquer pour ça. Dans ce cadre-là, la publicité n'a aucun produit à vendre. En revanche, elle passe des messages d'ordre politique. On pense à la campagne de Total, le pétrolier, Committed to Better Energy, engagé pour une énergie meilleure pendant un an avant la COP21. Donc là, il s'agit véritablement de protéger une réputation afin de convaincre les décideurs politiques de ne surtout pas mettre en place des normes contraignantes.
Mais comment on peut faire, Renaud Fossat, pardon, pour réguler ce type de communication? Vous n'allez pas pouvoir interdire à des entreprises de diffuser des slogans, de publier des rapports sur toutes les bienfaisances des dites entreprises. Enfin, comment vous faites?
Ah ben, il suffit de contrôler leur discours afin que ce qu'elles disent soit conforme à une certaine réalité.
Donc il faut une instance de contrôle.
Voilà, tout simplement. À l'heure actuelle, les discours des entreprises, qu'ils soient d'ordre commercial ou d'ordre corporate, ne sont contrôlés que par les entreprises elles-mêmes et les agences. C'est de l'autorégulation entièrement. Elles n'ont pas intérêt à réguler, elles ont intérêt à réguler les discours de manière la plus sobre, en tout cas. Il ne faut pas que ça affecte leur volume de vente et que ça affecte leur réputation. En gros, c'est très difficile pour elles de mener cet exercice dans l'intérêt général. Ce qu'on propose avec les organisations alliées de la société civile, c'est tout simplement une autorité indépendante aussi bien des entreprises que du gouvernement lui-même, donc comme le CSA, une autorité indépendante, et qui régule ses discours. Les règles existent, nous les connaissons. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que les pouvoirs publics reprennent, se réapproprient cet enjeu, puisque aujourd'hui, voilà, la communication guide nos comportements de consommation, et bien même plus loin sur l'enjeu politique, et on ne peut plus, sous prétexte de liberté d'expression, la communication commerciale n'est pas la liberté de la presse, on ne peut plus, pour ce prétexte, laisser les pouvoirs publics en dehors de l'enjeu de régulation des discours.
J'entends sur le principe, Renaud Fossat, mais je ne sais plus quel est le chiffre exact, par exemple, pour la France, mais je crois que c'est quasiment 2 milliards d'euros dépensés chaque année en publicité, quelque chose à peu près de cet ordre-là.
Alors, on est dans les 30 milliards.
Hein, d'accord, 30 milliards, hein, c'est beaucoup plus. Concrètement, comment on fait pour qu'une instance de contrôle vérifie tout ce qui va être produit en termes de publicité, sachant le volume que ça représente chaque année? Entre la théorie et la pratique, là, est-ce qu'on ne va pas avoir un problème?
À l'heure actuelle, l'ARPP, l'autorité d'autorégulation professionnelle de la pub, donc celle qui réunit les annonceurs et les agences, régule certains discours. Donc, de fait, on a vu des scandales comme celui de la campagne de l'enseigne Cdiscount qui appelait clairement à jeter des ordinateurs qui marchent, etc. On a vu qu'elle ne faisait pas son travail. Néanmoins, l'exercice est là. Elle contrôle un certain nombre de campagnes. Qu'ensuite, les entreprises mettent des montants plus élevés pour les diffuser plus largement, c'est autre chose. Le nombre de campagnes engagées chaque année par, je vous dis, un nombre très restreint d'entreprises, c'est tout à fait possible de les contrôler, a priori ou a posteriori. Ça, ce n'est pas vraiment un problème d'un point de vue technique.
Peut-être une petite réaction rapide, si vous le permettez, Philippe Moati et Sophie Dubuisson-Kelly, avant de retrouver notre nouvelle invitée qui nous attend déjà par téléphone, Anthony Galluzzo. Sophie Dubuisson-Kelly, sur cette question de la publicité.
Oui, alors c'est un point important, j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais des normes et ce sur quoi on s'accorde collectivement en fait pour attribuer des valeurs positives ou négatives à un certain nombre de pratiques sociales. La publicité joue son rôle, hein. On peut toujours s'amuser par exemple à regarder des publicités anciennes qu'on va trouver choquantes parce qu'elles utilisent des arguments qui seraient aujourd'hui plus acceptables pour montrer à quel point la publicité en fait traduit ces valeurs dont je parle. Donc en effet, ces questions de régulation sont importantes. Elles avaient déjà été soulignées à l'occasion du Grenelle en 2007, hein, donc ça fait déjà un certain nombre d'années.
Et on n'a pas du tout avancé depuis, hein, pas du tout.
Alors, il y a eu une révision, en fait. On est passé, en effet, du Bureau de vérification de la publicité, qui était une agence d'autorégulation, à une autre agence d'autorégulation. Après, il y a quand même aussi des processus qui sont à l'œuvre, qui sont aussi du côté des professionnels, avec des organisations qui veulent aussi avancer vers une plus grande responsabilité des communicants. On peut aussi considérer qu'un certain nombre d'étudiants qui sont formés aujourd'hui dans les grandes écoles sont aujourd'hui des forces qui vont agir de l'intérieur des entreprises et qui vont refuser un certain nombre de pratiques. Donc il y a aujourd'hui différents peut-être moyens d'attaquer cette question, à la fois par la régulation, par l'autorégulation et puis par ces mécanismes aussi internes. Mais c'est un sujet absolument majeur.
Philippe Moati, en quelques mots.
Oui, c'est un sujet très compliqué en réalité, très compliqué parce que c'est la partie émergée de l'iceberg en réalité. La publicité, elle est là effectivement pour vendre. La publicité corporate pour montrer qu'on entend les attentes de la société. Donc moi, je serais peut-être moins sévère sur cette publicité à condition qu'elle soit sincère, parce que c'est une force de rappel. Les entreprises sentent bien qu'il faut qu'elles montrent patte blanche, et qu'elles répondent à des attentes sociétales. Donc très bien si elles corrigent à la marge, même à la marge, leurs objectifs de rentabilité pour intégrer des critères sociétaux et environnementaux, et qu'elles aient envie de le faire savoir. Moi, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Donc la question, c'est peut-être moins de limiter la publicité en tant que telle que de s'assurer qu'elle soit loyale, sincère. Et sinon, si on veut remettre en question la publicité, c'est une remise en cause globale du capitalisme et de la croissance qui est au cœur du capitalisme. Quand on commence à tirer la ficelle, c'est vrai, il y a toute la pelote qui vient avec, quoi.
Merci en tout cas à Renaud Fossard qui était avec nous à l'instant par téléphone. On va justement revenir en arrière, prendre un petit peu de champ pour regarder comment s'est faite l'émergence de notre société de consommation, de cette culture de la consommation.
Oh madame, non, c'est moi qui l'ai plus la première.
Je suis
madame.
Non, 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 non,
je suis la première. Non, je suis la première.
Non, je suis la première.
Il y a trop de choses qui veulent. Ils veulent la paix. Enfin, ils voudraient simplement. Ils veulent être heureux. Enfin, c'est d'une manière très simple. Leur esprit est complètement imprégné de toutes les images, de tout le vocabulaire du bonheur qui leur est donné par les journaux, par l'Express, par les magasins. Nous vivons dans un monde qui est beau, qui nous parle d'une manière très forte. La beauté d'une voiture ou d'un meuble, nous sentons tout de suite qu'elle contient beaucoup plus de choses que la simple beauté. Il nous semble qu'elle détient une sorte de secret, qu'elle nous offre un véritable art de vivre. Que tout ce qui nous est donné à voir, c'est beaucoup plus de choses que la beauté. C'est de l'argent, c'est du confort, c'est du bonheur, c'est presque une certaine forme d'idéal.
Voilà, Archive 1965, avec la voix de Georges Perec, qui la même année publiait Les choses dans lequel il revenait évidemment sur la société de consommation des années 60. On va retrouver un historien, Anthony Galluzzo, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne et vous signez La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande à la découverte. C'est un ouvrage qui tente de reconstruire un peu toute cette histoire par laquelle nous avons plongé tous dans cette culture de la consommation en nous écartant progressivement d'une culture de la production. Vous essayez de comprendre un peu notre conversion justement à la consommation. On parlait à l'instant là de publicité, Anthony Galluzzo, la question de l'image qu'évoquait là à l'instant Georges Perec dans cette archive. Elle est décisive, vous le dites très bien dans votre ouvrage. Je vous cite, si la marchandise à la fin du 19e siècle a si rapidement conquis les imaginaires, c'est parce qu'elle a trouvé en l'image l'instrument de son omniprésence.
Oui, tout à fait. Quand on s'attelle à l'histoire de la consommation, quand on essaye de raconter cette histoire, il est impossible de faire l'impasse sur ces aspects. Ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes progrès dans la littérature, parce que dans ce livre, j'essaie de faire une synthèse de la littérature historique et sociologique sur le sujet de la consommation. Et effectivement, c'est des naissances conjointes. Le monde de l'image, de la reproduction de l'image et de la reproduction de la circulation massive des marchandises. Quand on se penche sur le quotidien des populations au 19e siècle, début du 19e siècle, on se rend compte qu'on est dans ce que Eugene Weber appelait une autarcie psychologique. C'est-à-dire qu'on a une myriade de consommateurs, enfin de consommateurs, non, justement non, de populations isolées en autarcie psychologique et également qui s'investissent dans des polycultures autarciques, c'est-à-dire qui produisent un peu de tous les éléments dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Et cette autarcie psychologique, elle va être fracturée par l'émergence des médias de masse, presse de masse, avec notamment l'émergence des magazines, puis cinéma, radio, télévision. Et ça va donner naissance à ce qu'on appelle une culture de consommation, c'est-à-dire une tendance dans les groupes humains à aller puiser des objets, non pas dans leurs pratiques quotidiennes et dans leur environnement immédiat, mais au lointain, des objets qui leur viennent par l'image, par la presse, par l'audiovisuel, etc.
Ouais, vous parlez des magazines, vous expliquez aussi notamment le rôle qu'ils ont eu dans l'acceptation, la normalisation de la bicyclette. Parce qu'au début de la bicyclette, elle est très très mal vue et c'est les magazines qui vont entreprendre ce travail de normalisation de son usage, et en particulier chez les femmes.
Oui, je prends ça comme une étude de cas. La bicyclette, ça nous semble complètement normalisé et banal aujourd'hui, mais l'usage de la bicyclette pour les femmes faisait scandale fin 19e siècle. Et en analysant, comme ont fait certains historiens, la presse, l'évolution de l'image de la bicyclette fin 19e siècle dans la presse, on voit que la presse est un facteur de normalisation, c'est-à-dire qu'ils vont raconter de plus en plus d'histoires autour de cet objet pour le normaliser, pour le rendre acceptable. Et les marchands de bicyclettes se rendaient compte que ce travail était indispensable, parce que simplement diffuser la nouvelle du produit, le prix du produit à travers des publicités classiques, ça ne suffisait pas à briser un certain nombre de tabous. Alors le tabou, là, en l'occurrence, c'était qu'il ne fallait pas que les femmes, notamment les femmes bourgeoises, circulent à bicyclette, parce que c'était scandaleux au niveau du... de démonstration des corps, et puis aussi au niveau de la masturbation, considéré que c'était un outil masturbatoire, aussi surprenant que ça puisse paraître aujourd'hui. Et tous ces préjugés ont été complètement ébranlés et détruits en l'espace d'une quinzaine d'années à travers la presse. Et de manière générale, les médias ont plusieurs fonctions. Ils vont éduquer à la consommation, on fait connaître des pratiques, des comportements, des objets de consommation, on les fait voir à ceux qui ne peuvent pas les voir directement dans les centres urbains. Et on normalise la marchandise, c'est-à-dire une marchandise qui peut sembler, par ses usages, les usages qu'elle charrie, un peu étonnante, voire scandaleuse. On va gérer les contradictions à travers tout un ensemble de récits et d'images, et on va vaincre les résistances.
Il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre, Anthony Galluzzo, c'est la question du rôle de la bourgeoisie. Parce que, pour vous, très clairement, la bourgeoisie a été le catalyseur de la démocratisation de cette culture de la consommation. Alors, est-ce que vous pourrez nous dire en quelques mots en quoi justement elle a participé à cette démocratisation de la culture de la consommation ? Et puis ensuite, pourquoi vous êtes si dur avec les bourgeois ? Vous dites, je vous cite dans le livre, vous écrivez « La bourgeoisie, par son complexe d'infériorité originelle et par sa tendance compensatrice à surinvestir les objets signes, tient un rôle fondateur dans la dynamique de consommation. » Enfin, tout de même, les bourgeois ne sont pas les seuls à aimer consommer, en réalité. Après tout, toutes les classes suivent dans cette fièvre consumériste. Alors pourquoi leur en vouloir autant ? Anthony Galluzzo, commençons par le premier volet.
Oui, alors j'emploie pas le terme bourgeois dans un sens péjoratif et polémiste. Mon bouquin, comme ma démarche, est une démarche compréhensive et historique. Et en fait, c'est simplement un constat sociologique qui a déjà été répété de maintes fois avant mon livre. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, la consommation, c'est quelque chose d'extrêmement généralisé. Mais on peut dire inversement que nous sommes tous embourgeoisés, dans le sens où les pratiques, la consommation, les objets signes, tout ça a été réduit à une fraction minoritaire de la population en première moitié du 19e siècle. Et ça s'est massifié depuis. Alors, par quel mécanisme ? Alors, on a, quand on se penche sur la socio-histoire des objets, des classes sociales du 19e siècle, on se rend compte que on a tout un ensemble d'objets qui commencent à émerger dans les intérieurs bourgeois de la grande bourgeoisie, puis par mécanisme d'imitation, d'affiliation, vont se diffuser vers la moyenne, la petite bourgeoisie, et quelques décennies plus tard, on les retrouve dans le commun. Je prends un exemple, rentrer dans un intérieur de personnes âgées, dans les années 70 à 90 en France et repérez un peu la décoration, les objets. Vous remarquerez tout un ensemble d'objets, des horloges, des tentures, des tissus, tout un ensemble d'objets, toute une façon, tout un art décoratif en fait, que si vous connaissez un peu l'histoire de la décoration, vous serez étonné peut-être de vous rendre compte qu'il y a une grande correspondance avec ce qu'on trouvait milieu 19e siècle dans les intérieurs de la grande et moyenne bourgeoisie. En fait, on a eu un ruissellement de ces marchandises, de ces modes, de ces tissus, de ces tentures, de ces objets décoratifs, parce qu'ils étaient vraiment l'apanage d'un certain milieu social au milieu 19e siècle, et au fur et à mesure de la reproduction, de la baisse du coût des matières premières, de l'amélioration de l'appareil industriel, etc., on a eu un ruissellement de ces marchandises tout au long de la pyramide sociale.
Ouais. Vous parlez d'intérieur, justement, ce que vous expliquez dans l'introduction de votre livre, c'est que précisément quand on rentrait dans les intérieurs, il y a encore 150 ans, peut-être un peu plus, en tout cas au début du 19e siècle, pardon, il y a une chose qui était particulièrement frappante, c'était de voir les outils qu'il y avait, parce qu'il y avait une culture de la production, on avait encore un lien à la production. C'est ça la clé aujourd'hui pour nous, pour sortir de cette culture de la consommation, il faut retrouver cette culture de la production.
Alors je dirais pas qu'il faut, parce que j'essaie de pas être normatif et j'essaie simplement de décrire des phénomènes.
Ouais.
Mais effectivement, la consommation, c'est un terme extrêmement ambigu, polysémique. D'ailleurs, il y a un article dans Current Anthropology de David Graeber il y a quelques années qui expliquait qu'il fallait arrêter d'utiliser ce terme parce qu'il était trop vaste. Donc faut poser une définition, et moi ma définition elle est matérialiste. Une société de consommation, c'est une société où la production et la consommation sont détachées dans l'espace et dans le temps, et où les gens produisent directement simplement une infime partie de ce qu'ils consomment. Et effectivement, ça c'est paraît extrêmement banal aujourd'hui, mais ça repose sur un changement extrêmement fulgurant ces dernières décennies, ces deux derniers siècles. Quand on se penche sur le sort de l'immense majorité de l'humanité au milieu du 19e siècle, on se rend compte que c'est une humanité qui est paysanne, qui vit dans une espèce d'autonomie dans la polyculture autarcique et qui produit ce qu'elle consomme. Et ça, c'est pas, je veux pas idéaliser ça parce qu'il y a une énorme fragilité, hein. On a une énorme mortalité, des maladies. On a, c'est une société qui est pas du tout idéale. Mais la grande mutation, c'est qu'à partir du moment où ils se tournent vers le marché, on a l'émergence du marché et la médiation de l'argent. Ils vont non plus produire pour eux-mêmes en petite quantité toute une série de choses, mais se spécialiser. Et ensuite écouler sur le marché leurs produits, leur production spécialisée, et ensuite se tourner vers le marché également pour subvenir au reste de leurs besoins. Et là émerge ce qu'on appelait le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne produisez plus ce que vous consommez, vous perdez la main sur le travail, l'accumulation du travail qui est nécessaire à la concrétisation de ces objets, à la façon dont ils fonctionnent, et donc ces objets vont pouvoir apparaître comme des abstractions qui vont être entourées de tout un ensemble de significations lointaines, mystiques, magiques, et on va pouvoir injecter artificiellement du sens dans les objets qui vont devenir des marchandises à travers le marketing et la publicité. Et c'est ça l'effet de rupture, et c'est ça, à mon avis, qui fonde la société de consommation.
Merci beaucoup, Anthony Galluzzo. Je rappelle votre ouvrage, donc La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande, paru à la Découverte, qui est un ouvrage vraiment passionnant que je conseille à toutes et tous. Merci à Benjamin Hu de nous avoir sorti des placards ce titre consommateur de 1981. Un grand merci surtout à nos invités Philippe Moati et Sophie Dubuisson-Kellier de nous avoir éclairés aujourd'hui sur les évolutions de nos modes de consommation. On poursuivra demain nos besoins d'évasion. Pour l'heure, il est 11h58 et 30 secondes. On va retrouver dans quelques instants Olivia Gesbert et la Grande Table.